Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour est la polygamie. Première partie. De nombreuses personnes en Afrique sont touchées par le problème de la polygamie. Bien que certains hommes continuent actuellement de prendre plusieurs femmes, d'autres ont vu que la polygamie est un piège. Les avantages qu'elle semble offrir sont moins importants que les malheurs qu'elle donne. L'homme pensait au prestige, au plaisir que lui procurerait une femme plus jeune et plus belle, et peut-être à la main-d'œuvre de plusieurs femmes et de leurs enfants dans ses travaux champêtres. Il trouve plutôt que les charges d'une si grande famille dans le monde moderne sont lourdes. Frais de scolarité, habillement, ordonnances médicales, nourriture, etc. Il a du mal à supporter les querelles entre ses épouses. Et il se voit toujours en train de mentir dans un effort de ne pas exciter la jalousie de l'une ou de l'autre. La première femme a peut-être accepté l'idée d'un foyer polygame en pensant aux travaux du ménage et aux autres devoirs domestiques. La nouvelle femme ou ses parents pensaient à la sécurité matérielle et sociale d'un mariage avec un homme déjà établi dans la vie. Chacune s'est trouvée par la suite avec une rivale, quelqu'une qui aspire aux mêmes avantages avec laquelle on est en compétition. Il faut lutter contre l'autre afin d'avoir l'amour et l'argent de son mari pour soi-même et pour ses enfants. L'enfant qui n'a pas choisi de naître dans un foyer polygame se voit négligé par son père, qui a peut-être déjà trop d'enfants pour bien s'occuper de tous et qui n'a pas l'argent requis pour les envoyer tous à l'école puisqu'il préfère payer la dot de la femme numéro 3. Peut-être que l'enfant est méprisé par sa marâtre. Peut-être qu'il ne reçoit pas les mêmes avantages donnés à ses frères et sœurs parce que sa mère n'est pas la femme préférée. Peut-être qu'il souffre en voyant sa maman pleurer à cause de la manière dont elle est traitée. Sûrement il existe des exceptions, des foyers polygames où l'on trouve une bonne entente. Cependant, les témoignages négatifs abondent. Il suffit de considérer les foyers polygames cités dans la Bible pour trouver une confirmation. Abraham et ses femmes Sarah et Agar, Jacob et ses femmes Léa et Rachel, Elkana et ses femmes Anne et Penina montrent tous le potentiel pour la discorde quand on se marie à plus d'une femme. Dans le cas du roi David, c'était les enfants de ces différentes femmes qui perpétuaient et rendaient violente la rivalité. La polygamie pourtant produit des problèmes de mésentente domestique. Mais il y a pire que cela. En tant que déviation du modèle de mariage recommandé dans la Bible, elle représente un problème moral. Les différentes dénominations catholiques et protestantes ont pris toute une gamme de positions devant ce problème. Certaines églises défendent à leurs membres de prendre plus d'une femme, mais acceptent et baptisent ceux qui se sont mariés à plus d'une femme avant d'entendre l'Évangile. D'autres églises refusent aux polygames le baptême et la communion, mais leur permettent de jouer un rôle actif dans la vie de l'église locale. D'autres églises demandent aux polygames de se séparer de toutes ces femmes, sauf la première, avant de recevoir le baptême et de jouer un rôle quelconque dans l'église. D'autres encore, généralement d'origine africaine, approuvent la polygamie, leur fondateur même prenant plusieurs femmes. Que faut-il enseigner et pratiquer à cet égard? Comme pour toute autre question de moralité, la Bible seule peut nous montrer la volonté de Dieu. Il est important de nous rappeler dès le départ de nos recherches que Dieu déclare aux hommes « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55, versets 8 et 9. C'est Dieu seul qui peut nous montrer ce qui est réellement conforme à la justice, la charité et la sainteté. La Bible déclare sans équivoque que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Hébreux 13, verset 4. Dieu exige que les hommes respectent le mariage, une institution qu'il a lui-même ordonnée. Violer ces principes, c'est, aux yeux de Dieu, souiller quelque chose de pur. Se rendre coupable de la fornication ou de l'adultère mérite la condamnation de Dieu. Ceux qui commettent ces péchés se souillent, Marc 7, versets 21 à 23, doivent être ôtés du milieu de l'Église, 1 Corinthiens 5, versets 11 à 13, n'hériteront pas le royaume de Dieu, 1 Corinthiens 6, verset 10, pratiquent des œuvres de la chair, Galates 5, verset 19, et seront jetés dans les temps de feu, Apocalypse 21, verset 8. Il n'est pas étonnant que Paul dise « Fuyez l'impudicité », 1 Corinthiens 6, verset 18. En vue d'un si grand danger, nous devons nous garder avec soin de participer à des actes de péché sexuel ou de les approuver. Est-ce que la polygamie est vraiment une forme d'adultère? Voyons la manière dont la Bible présente la nature du mariage et de l'adultère, et faisons la comparaison avec la polygamie. 1 Corinthiens 7, versets 1 à 5 dit « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. » Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Pour éviter la tentation d'avoir des rapports sexuels en dehors du mariage, la Bible recommande de se marier. Dans le mariage selon Dieu, chaque homme a sa propre femme et chaque femme a son propre mari. Dans le mariage polygame, l'homme a ses propres femmes et la femme partage un mari avec d'autres femmes. Devant Dieu, quand un homme se marie, il n'a plus autorité sur son propre corps. Son corps appartient à sa femme, et il a le devoir de satisfaire aux désirs sexuels de sa femme. Le corps de la femme appartient au mari, et elle a le devoir de satisfaire aux besoins sexuels de son mari. De cette manière, les tentations de chercher la satisfaction ailleurs sont diminuées. Un homme déjà marié n'a plus le droit de donner son corps à une autre femme. Faire une cérémonie de mariage avec l'autre ou payer une dot ne change pas le fait que la première femme a l'autorité sur le corps de cet homme. Bien que ce passage ne parle pas directement de l'adultère, il est évident que la sexualité devait s'exprimer dans une relation monogame. En dehors de ce cadre, les rapports sexuels ne sont pas approuvés de Dieu. Matthieu 19, versets 4 et 5. Jésus répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » En donnant son enseignement sur le mariage, Jésus s'est basé sur ce que Dieu avait ordonné au commencement. Il s'agit de l'union permanente de deux personnes, un homme et sa femme. Ces deux deviennent une seule chair. Une troisième personne n'a pas de place dans l'union intime que Dieu a voulu. Il n'y a aucun doute que Dieu a prévu pour l'homme la monogamie. Et bien que les hommes se soient égarés du plan originel, Jésus les rappelle au modèle donné lors de la création. Romains 7, versets 2 à 3. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. La Bible définit ici l'adultère très clairement. Une femme déjà liée à un homme dans le mariage commet l'adultère en se joignant à un autre homme. Une femme ayant plusieurs maris est forcément adultère. Est-ce que la femme seule peut se rendre coupable de l'adultère? Ou est-ce que Dieu exige que l'homme aussi soit fidèle à son conjoint? Il y a-t-il deux mesures différentes de fidélité? Une mesure pour la femme qui a droit à un seul mari et une autre mesure pour l'homme qui peut se permettre toutes les femmes qu'il désire épouser. Marc 10, versets 11 à 12 contient la réponse. Il leur dit, Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Évidemment, la même règle s'applique aux hommes comme aux femmes. Il n'y a pas de distinction qui donne aux hommes un droit qui serait refusé aux femmes. Le même acte rendrait coupable d'adultère homme ou femme. Notez bien que Jésus dit que l'homme qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard, c'est-à-dire à l'égard de sa femme. L'homme qui commet l'adultère non seulement quand il séduit la femme d'un autre, mais aussi quand il n'est pas fidèle à sa propre femme. Si celui qui répudie sa première femme avant de prendre une deuxième commet un adultère à l'égard de la première, il est encore plus sûr que celui qui fait venir à la maison la deuxième femme pendant que la première est toujours avec lui commet aussi un adultère et provoque la jalousie de sa femme légitime par son infidélité. En vue de tous ces passages, il faut dire que Dieu a ordonné le mariage entre un seul homme et une seule femme, la monogamie. Ce lien est exclusif. Étant lié à un conjoint par le mariage, l'on n'a le droit ni au mariage ni au rapport sexuel avec d'autres personnes. Toute violation de ce principe est un adultère.
Comme serrant tes bras me happait le courant des eaux, ainsi soupire mon âme, Seigneur, après tes ruisseaux. Elle a soif du Dieu vivant, et s'écrie en le suivant. Ô mon Dieu, quand douce grâce, que mes yeux verront ta face.